Chapitre 7. Si à genoux que fût M. de Champdoré devant les volontés de sa petite fille, devant les moindres désirs de cet enfant, en qui survivaient, pour lui, vieillard, toutes ses affections brisées par la mort et ses suprêmes espérances, ce n'est pas sans une arrière-pensée qu'il était monté prendre dans son secrétaire cette fortune qu'elle lui demandait. Aussi, dès qu'ils furent hors de la maison, « À présent que nous voilà bien seuls, chère fille, commença-t-il, ne me diras-tu pas ce que tu veux faire de tant d'argent ?»«
C'est mon secret, répondit-elle.
« Et tu n'as plus assez de confiance en ton vieux père pour le lui dire, chérie ?» Il s'arrêtait, elle l'entraîna de nouveau.
« Tu sauras tout, poursuivit-elle, et avant une heure. Mais, oh, ne te fâche pas, bon papa, j'ai un projet dont je ne comprends que trop la folie. » Si je te le disais, tu voudrais peut-être m'en détourner, et si tu réussissais et qu'ensuite il arrivât malheur à Jacques, je ne survivrais pas à un malheur, et quels ne seraient pas tes regrets lorsque tu penserais, si je l'avais laissé faire cependant.
Denise, cruel enfant!
De notre côté, continuait-elle, si tu ne parvenais pas à me détourner de mes projets, tu diminuerais certainement mon courage, et j'en ai besoin, va, grand-père, pour oser ce que je vais tenter.
C'est que, cher enfant, pardonne-moi de te répéter cela, 120 000 francs, c'est une très grosse somme, et il y a bien des gens courageux et habiles qui travaillent et se privent toute leur vie sans parvenir à l'amasser.
Ah, tant mieux, interrompit la jeune fille, tant mieux 1000 fois. « Puisse, en effet, cette fortune être assez tentante pour qu'on ne me la refuse pas. »
Grand-père Champdoré commençait à comprendre. « Avec tout cela, fit-il, tu ne me dis pas où tu me conduis. »«
Chez mes couturières. »«
Chez les demoiselles Méchinet. » »«
Oui. »
Monsieur de Champdoré dut être fixé.
« Nous ne les trouverons pas, dit-il. C'est aujourd'hui dimanche, elles doivent être à l'église pour le salut. »
« Nous les trouverons, bon papa, parce qu'elles soupent toujours à 7h30 à cause de leur frère, le greffier. Mais il faut nous hâter. »
Le vieux gentilhomme se hâtait bien. Seulement, il y a loin de la rue de la Rampe à la place du Marché Neuf. Car c'est place du Marché Neuf que demeurent les sœurs Méchinet, et dans une maison à elles, s'il vous plaît, une maison qui devait réaliser le rêve de leur jour et qui est devenue le cauchemar de leur nuit. C'est l'année qui a précédé la guerre qu'elles ont acquis cet immeuble, sur les conseils de leur frère, et de moitié avec lui, moyennant une somme totale de 47 000 francs, y compris les frais. C'était une brillante affaire, car le rez-de-chaussée et le premier étage sont loués 2 300 francs par an aux plus gros épiciers de Sauveterre. Les Méchinet ne crurent pas commettre une imprudence en consacrant à cette acquisition 10 000 francs et en s'engageant à payer le reste en 3 ans. La première année, tout alla bien, mais la guerre survenant et ses désastres, les revenus du frère et des deux sœurs se trouvèrent taris et réduits aux émoluments de la place de greffier. Ils durent s'imposer les plus dures privations et encore emprunter pour faire face à leurs engagements. Avec la paix, l'argent commença à leur entrer et personne ne doutait à Sauveterre qu'ils ne se sortissent d'affaires, le frère étant le plus industrieux des hommes et les sœurs ayant la clientèle des dames les plus distinguées de l'arrondissement. « Bon papa, elles sont chez elles !» déclara Mademoiselle Denise en arrivant à la place.
« Tu crois ?»«
J'en suis sûre, je vois de la lumière à leurs fenêtres. »
Monsieur de Champdoré s'arrêta.
« Que dois-je faire maintenant ? » demanda-t-il. « Tu vas, grand-père, me donner les titres que tu as dans ta poche et m'attendre en faisant les 100 pas pendant que je monterai chez Mademoiselle Méchinet. Je te dirai bien de venir, mais ta présence effraierait. D'ailleurs, si la démarche tournait mal, venant d'une jeune fille, elle serait sans conséquence. » Le vieux gentilhomme n'avait plus de doute.
« Tu ne réussiras pas, ma pauvre enfant, » fit-il.
« Mon Dieu !» dit-elle, retenant à peine ses larmes. « Pourquoi me décourager ?»
Il ne répondit pas. Étouffant un soupir, il sortit ses titres que Mademoiselle Denise, tant bien que mal, logea dans toutes ses poches et dans le petit sac qu'elle portait à la main.
« Allons, à tout à l'heure, grand-père » dit-elle quand elle eut achevé. et, légère comme l'oiseau, elle franchit la rue et monta chez ses couturières. Ces braves filles et leurs frères achevaient en ce moment un souper exclusivement composé de petits morceaux de porc froid et d'une salade largement vinaigrée. À l'entrée inattendue de Mademoiselle de Chandoré, tous se dressèrent. « Vous, mademoiselle !» s'écria l'aînée des couturières. « Vous ?» Tout ce qu'il y avait dans ce « vous », Mademoiselle Denise ne le comprenait que trop. Il signifiait, l'intonation aidant, « Quoi ? Votre fiancé est accusé d'un crime abominable, il a contre lui des charges accablantes, il est en prison, au secret, tout le monde dit qu'il sera condamné, et cependant, vous voici !» Mais Mademoiselle Denise garda aux lèvres le sourire qu'elle s'était imposé. « Oui, c'est moi, » répondit-elle. « J'ai absolument besoin de 2 robes pour la semaine prochaine et je viens vous prier de me montrer des échantillons. » Toujours sur les conseils de leurs frères, les demoiselles Méchinet s'étaient entendues avec un magasin de Bordeaux qui leur confiait des échantillons de toutes ces étoffes et qui leur payait une remise sur ce qu'elles vendaient. « Je suis à vous, mademoiselle, » répondit la sœur aînée. « Permettez-moi seulement d'allumer une lampe, on n'y voit presque plus. » Et tout en essuyant le verre et en coupant la mèche, « Est-ce que tu ne vas pas à ton Orphéon ?» demanda-t-elle à son frère. « Pas ce soir, » répondit-il. « On t'attend cependant. » « Non, j'ai prévenu. J'ai 2 cartes à mettre sur pierre pour mon imprimeur et des copies très pressées à achever pour le tribunal. » Tout en répondant, il avait plié sa serviette et allumé une bougie. « Bonne nuit, » dit-il à ses sœurs, « car vous ne me reverrez pas ce soir. » Et s'étant incliné profondément devant Mademoiselle de Chandoré, il sortit sa bougie à la main. « Où va donc votre frère ?» demanda vivement Mademoiselle Denise. « Chez lui, mademoiselle, sa chambre est en face de celle-ci, de l'autre côté de l'escalier. » Mademoiselle de Chandoré était plus rouge que le feu. Allait-elle donc laisser échapper l'occasion qui la servait au-delà de ses espérances? Rassemblant tout ce qu'elle avait d'énergie, « Mais, au fait, s'écria-t-elle, j'ai 2 mots à lui dire à votre frère, mes chères demoiselles. Attendez-moi, je reviens à l'instant. » Et elle s'élança dehors, laissant les couturières béantes de stupeur et se demandant si le coup dont elle venait d'être atteinte n'avait pas troublé sa raison. Le greffier, lui, était encore sur le palier, cherchant dans sa poche la clé de sa chambre. « Il faut que je vous parle, » lui dit Mademoiselle Denise. « À l'instant !» Si grand fut l'étonnement de Méchinet qu'il ne trouva rien à répondre. Il fit seulement un mouvement, comme pour revenir chez ses sœurs. « Non, chez vous, » fit la jeune fille. « Il ne faut pas qu'on puisse nous entendre. Ouvrez, monsieur, mais ouvrez donc, on peut venir. » Le fait est qu'il était tellement abasourdi qu'il fut plus d'une demi-minute à introduire la clé dans la serrure. Enfin, la porte s'étant ouverte, il s'effaça pour que Mademoiselle Denise passât la première. « Mais elle ?»« Non, » dit-elle, « entrez !» Il obéit. Elle le suivit et, une fois dans la chambre, elle referma la porte, poussant même une targette qu'elle avait aperçue. Méchinet, le greffier, était, à Sauveterre, renommé pour son aplomb. Mademoiselle de Chandoré, elle, était la timidité même et pour un rien, rougissait jusqu'au blanc des yeux et demeurait sans voix. Pourtant, ce n'était pas la jeune fille qui était interdite en ce moment. « Asseyez-vous, monsieur Méchinet, dit-elle, et écoutez-moi. » Il posa son flambeau sur la table et s'assit. « Vous me connaissez, n'est-ce pas ?» commença Mademoiselle Denise. Assurément, mademoiselle. Vous n'êtes pas sans avoir entendu dire que mon mariage est arrêté avec Monsieur Jacques de Boiscourant. Comme s'il eût été mu par un ressort, le greffier se dressa, se frappant le front d'un furieux coup de poing. Ah, fichue bête que je suis ! S'écria-t-il. Je comprends. Oui, c'est bien cela, continua la jeune fille. Je viens de vous parler de Monsieur de Boiscourant, de mon fiancé, de mon mari. » Elle s'arrêta et durant plus d'une minute, Méchinet et elle restèrent face à face, silencieuses et immobiles, les yeux dans les yeux, lui se demandant ce qu'elle allait lui proposer, elle essayant de deviner ce qu'elle pouvait oser. « « Vous devez donc comprendre ce que je souffre, monsieur, » reprit-elle enfin. « Depuis 3 jours que monsieur de Boiscourant est en prison, accusé de plus lâche des crimes. »«
Oh oui, je le comprends, » s'écria le greffier, et, emporté par son émotion,
« Mais je puis vous affirmer, poursuivit-il, que moi, qui ai assisté à toute l'instruction et qui ai l'expérience des affaires criminelles, je crois monsieur de Boiscourant innocent. » Tel n'est pas, je le sais, l'avis de M. Galpin d'Avelines, ni de M. d'Aubigeon, ni de ces messieurs du tribunal, ni de la ville entière. N'importe, c'est le mien. J'étais là, voyez-vous, quand on est allé prendre M. de Boiscourant au seau du lit. Eh bien, rien qu'au timbre de sa voix quand il s'est écrié. Et c'est ce cher d'Avelines, je me suis dit, cet homme n'est pas coupable.
« Oh, monsieur !» balbutiait Mademoiselle Denise. « Merci !» « Merci !»«
Il n'y a pas à me remercier, mademoiselle, car le temps n'a fait qu'affermir ma conviction. Est-ce que jamais un coupable aurait l'attitude de M. de Boiscourant ? Tenez, ce tantôt, lorsque nous sommes allés lever les scellés, il fallait le voir, calme, digne, répondant froidement aux questions qui lui étaient adressées. À ce point que je n'ai pu me retenir de dire à M. Galpin d'Avelines ce que je pensais. Il m'a répondu que je n'étais qu'un sot. « Eh bien, moi, je soutiens que c'est lui qui est... Pardon, que c'est lui qui se trompe. Plus j'étudie M. de Boiscourant, plus il me fait l'effet d'un homme qui n'a qu'un mot à dire pour se justifier. » Mademoiselle Denise écoutait avec une telle intensité d'attention qu'elle oubliait presque pourquoi elle était venue. « Ainsi, fit-elle, M. de Boiscourant ne vous semble pas trop affecté ?»«
Je mentirais, mademoiselle, si je vous disais qu'il n'est pas triste. » Mais pour inquiet, non, il ne l'est pas. Le premier étourdissement passé, son sang-froid ne s'est plus démenti, et c'est en vain que depuis 3 jours, M. Galpin d'Avelines épuise tout ce qu'il a de pénétration et de sagacité. Mais il s'arrête à court, tel qu'un homme ivre qui, recouvrant soudain sa lucidité, reconnaît que le vin lui a trop délié la langue.
« Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là ? » s'écria-t-il. « Au nom du ciel, mademoiselle, ne répétez à personne ce que vient de m'arracher ma respectueuse sympathie. » Pour mademoiselle Denise, le moment décisif était arrivé. « Si vous me connaissiez mieux, monsieur, prononça-t-elle, vous sauriez qu'on peut compter sur ma discrétion. Ne vous repentez pas d'avoir, par votre confiance, apporté quelque adoucissement à une horrible douleur. Ne vous repentez pas, car... »
Sa voix faiblissait et il lui fallut un effort pour ajouter
« Car je viens vous demander plus encore. Oh oui, bien plus !»
Méchinet était devenu affreusement pâle.
« Plus un mot, mademoiselle, » interrompit-il violemment. « Votre espoir seul est une injure. Ignorez-vous donc ce qu'est ma profession et que, par serment, je me suis engagé à être aussi muet que les cellules où l'on enferme les prisonniers. Moi, un greffier, livrer le secret d'une instruction criminelle. »
Mademoiselle de Chandoré tremblait comme la feuille, mais son esprit restait net et clair.
« Vous laisseriez plutôt, fit-elle, périr un infortuné ?»«
Mademoiselle !»«
Vous laisseriez condamner un innocent lorsqu'il vous serait possible de dissiper d'un mot l'épouvantable erreur dont il est victime ?»« Vous lui diriez, c'est malheureux, mais j'ai juré de me taire. » Et vous le verriez, d'une conscience tranquille, monter à l'échafaud. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai.
Je vous l'ai dit, mademoiselle, je crois monsieur de Boiscourant innocent.
Et vous refusez de m'aider à faire éclater son innocence. Oh mon Dieu, quelle idée les hommes se font-ils donc du devoir? Comment vous émouvoir? Comment vous convaincre? Faut-il vous rappeler ce que doivent être les tortures de cet honnête homme accusé d'un ignoble assassinat? Dois-je vous dire nos mortelles angoisses, à nous, ses amis, ses parents, les larmes de sa mère, ma douleur à moi, sa fiancée? Nous le savons innocent, et cependant, nous ne pouvons faire éclater son innocence, faute d'un ami qui ait pitié de nous. » De sa vie, le greffier n'avait eu de tels accents. Remué jusqu'au plus profond de l'âme.
« Que voulez-vous donc de moi ? » demanda-t-il frémissant.
« Oh, bien peu de choses, monsieur, bien peu. Que vous fassiez tenir 10 lignes à monsieur de Boiscourant, rien que 10 lignes, et que vous nous rapportiez sa réponse. » L'audace de la proposition parut frapper le greffier d'épouvante.
« Jamais !» prononça-t-il.
« Vous resterez impitoyable ?»«
Ce serait forfaire à l'honneur. »
« Et laisser condamner un innocent, que serait-ce donc ?»
L'angoisse de Méchiné était visible. Étourdi, bouleversé, il ne savait que résoudre ni que répondre. Enfin, un motif de refus se présentant à son esprit en détresse.
« Et si j'étais découvert, balbutia-t-il, ce serait perdre ma place, ruiner mes sœurs, briser mon avenir. »
D'une main fiévreuse, Mademoiselle Denise retirait de ses poches et jetait en tas sur la table les titres que lui avait donnés son grand-père.
« Il y a là 120 000 francs » commença-t-elle.
Violemment, le greffier se rejeta en arrière.
« De l'argent ? » s'écria-t-il. « Vous m'offrez de l'argent ?»«
Oh, ne vous offensez pas !» reprit la jeune fille d'un accent à émouvoir les pierres.
« Voudrais-je vous offenser, vous, à qui je demande plus que la vie ? Il est de ses services qui ne se paient pas. Mais si les ennemis de M. de Boiscoran viennent à savoir que vous nous avez aidés, c'est contre vous que se tournera leur rage. »
Machinalement, le greffier dénouait sa cravate. La lutte, au-dedans de lui, devait être terrible. Il étouffait.
« 120 000 francs ? » fit-il d'une voix rauque.
« N'est-ce pas assez ? » insista la jeune fille.
« Oui, vous avez raison, c'est trop peu. Mais j'en ai autant, j'en ai le double à votre disposition. »
Blême, les yeux hagards, Méchiné s'était rapproché et, d'un geste convulsif, il maniait cette masse de titres en répétant
« 6 000 livres de rente ! 6 000 livres de rente !»«
Non, le double !» dit Mademoiselle Denise. Et en même temps, notre reconnaissance, notre amitié dévouée, toute l'influence des familles réunies de Chandoré et de Boiscoran, c'est-à-dire la fortune, la considération, une situation enviée.
Mais déjà, grâce à une toute-puissante projection de volonté, le greffier avait repris possession de lui-même.
« Assez, mademoiselle, dit-il, assez !» et d'une voix résolue, bien que tremblante encore.
« Reprenez cet argent, continua-t-il, quand on fait ce que vous me demandez, quand on trahit son devoir, si c'est pour de l'argent, on est le dernier des misérables. Si on a eu d'autres mobiles qu'une conviction sincère et l'intérêt de la vérité, on peut passer pour fou, on n'en reste pas moins digne de l'estime des gens d'honneur. Reprenez cette fortune, mademoiselle, qui a fait un instant vaciller la conscience d'un honnête homme. Je ferai ce que vous désirez, mais... pour rien. »
Si grand-père Chandoré s'impatientait à faire les 100 pas sur la place du marché neuf, les sœurs Méchiné, dans leur atelier, trouvaient le temps bien plus long encore.
« Qu'est-ce que ?» se demandaient-elles l'une à l'autre. « Qu'est-ce que mademoiselle de Chandoré peut bien avoir à dire à notre frère ?»
Au bout de 10 minutes, leur curiosité, irritée par les conjectures les plus insensées, devint un tel supplice que, n'y tenant plus, elles se décidèrent à aller frapper à la chambre du greffier.
« Ah, laissez-moi en repos !» leur cria-t-il, irrité d'être ainsi interrompu.
Mais, réfléchissant, il courut ouvrir, et plus doucement,
« Rentrez chez vous, dit-il à ses bonnes filles, et si vous tenez à m'épargner les plus graves désagréments, « ne parlez à personne de l'entretien que mademoiselle de Chandoré et moi avons en ce moment. »
Dressées à obéir, les deux sœurs se retirèrent, mais non si vivement qu'elles n'eussent eu le temps d'apercevoir les titres que mademoiselle Denise avait jetés sur la table et qui étaient des obligations de Paris-Lyon-Méditerranée. Or, précisément, les demoiselles Méchiné connaissaient ces obligations pour en avoir possédé 8 autrefois avant l'achat de leur maison. Leur ardent désir de savoir se compliqua donc aussitôt d'une vague terreur et, dès qu'elles furent rentrées,
« Tu as vu ?» demanda la cadette.
« Oui, ces titres, » répondit l'autre.
« Il y en avait bien 500 ou 600.
Peut-être plus.
C'est-à-dire pour une somme considérable.
Énorme.
Qu'est-ce que cela signifie, Sainte Vierge ? Et à quoi faut-il nous attendre ? Et notre frère qui nous recommande le secret. Il était plus blanc que sa chemise et affreusement troublé. Mademoiselle de Chandoré pleurait comme une madeleine. C'était vrai. Tant qu'elle avait douté du résultat, mademoiselle Denise avait été soutenue par cette idée que le salut de Jacques dépendait de son courage à elle, sa fiancée, et de sa présence d'esprit. Certaine du succès, elle n'avait plus su maîtriser son émotion, et, brisée par l'effort, elle s'était affaissée sur une chaise en fondant en larmes. Ayant refermé sa porte, le greffier la considéra un moment, et, plus maître de soi qu'il avait été jusqu'alors, « Mademoiselle !» commença-t-il. Mais, au son de sa voix, elle se dressa, et lui prenant les mains, qu'elle garda un instant entre les siennes, « Comment vous remercier, monsieur » s'écria-t-elle. « Comment vous prouver jamais l'étendue de ma reconnaissance ?» Si l'idée était venue au greffier de se dédire, elle se fût envolée, tant irrésistiblement il subissait le charme. « Ne parlons pas de cela, » dit-il, avec la brusquerie des gens qui essaient de dissimuler leur émotion. « Je n'en parlerai plus, monsieur, » fit doucement la jeune fille. Mais je veux cependant vous dire que nul de nous n'oubliera jamais la dette que nous contractons aujourd'hui. L'immense service que vous allez nous rendre n'est pas sans danger, avez-vous dit. Quoi qu'il advienne, rappelez-vous que, de ce moment, vous avez en nous les plus dévoués des amis. » L'interruption des sœurs Méchiné avait eu cet effet de rendre au greffier une bonne partie de son sang-froid. « J'espère bien qu'il ne m'arrivera pas malheur, » dit-il. « Et cependant, mademoiselle, je ne dois pas vous cacher que le service que je vais essayer de vous rendre présente beaucoup plus de difficultés qu'on ne croirait. »«
Mon Dieu !» murmura mademoiselle Denise.
« Monsieur Daveline, poursuivit le greffier, n'a peut-être pas une intelligence très supérieure, mais il sait son métier et il est de plus très fin et excessivement défiant. » Hier encore, il me disait qu'il prévoyait que la famille de M. de Boiscourant tenterait l'impossible pour le soustraire à l'action de la justice. De là, chez lui, des transes incessantes, un redoublement de défiance et un luxe de précaution dont on n'a pas l'idée. S'il osait, il établirait son lit en travers la porte de M. Jacques.
« Cet homme me hait, M. Méchiné !»«
Non, mademoiselle, non !» Mais il est ambitieux, il croit que sa carrière dépend du résultat de cette instruction, et il tremble que son prévenu ne s'envole ou qu'on le lui prenne. Fort perplexe, évidemment, Méchiné se grattait l'oreille. « Comment vais-je m'y prendre, continuait-il, pour remettre un billet à monsieur de Boiscourant ? S'il était averti, ce ne serait rien. Mais il ne l'est pas. Il est tout aussi défiant que monsieur Daveline. » Il craint toujours qu'on ne lui tende quelque piège et il se tient sur ses gardes. Si je lui fais un signe, me comprendra-t-il? Et si je fais un signe, M. Daveline, qui a l'œil d'une pie, ne le surprendra-t-il pas?
N'êtes-vous donc jamais seul avec M. de Boiscourant, monsieur?
Jamais une seconde, mademoiselle. C'est avec le juge d'instruction que j'entre dans la prison et avec lui que j'en sors. Vous me direz qu'en sortant, comme je passe le dernier, je pourrai laisser tomber adroitement le billet. Mais quand nous sortons, le geôlier qui a de bons yeux est là. J'aurai de plus à redouter l'excès de prudence de M. de Boiscourant. Voyant un billet lui arriver de cette façon, il serait bien capable de le remettre sans l'ouvrir à M. Galpin d'Aveline. Il s'arrêta et, après un moment de réflexion, « Le plus sûr, reprit-il, serait peut-être de mettre dans la confidence le geôlier Blangin ou un détenu qui est chargé de servir et d'espionner M. de Boiscourant. »«
Frument ce cheminot !» dit vivement mademoiselle Denise.
La plus extrême surprise se peignit sur les traits de Méchiné. « Vous savez son nom ? » dit-il.
« Je le sais parce que Blangin m'a parlé de ce prisonnier » et que son nom m'a frappé le jour où Madame de Boiscourant et moi, ignorant ce que c'est que le secret, sommes allés à la prison demander à voir Jacques. »
Le greffier eut un geste de dépit. « Maintenant, fit-il, je m'explique les terreurs de Monsieur Daveline. Il aura eu vent de votre démarche et se sera imaginé que vous vouliez lui enlever son prisonnier. » Il marmotta entre ses dents quelques mots encore que Mademoiselle Denise n'entendit pas. Puis, se décidant, « N'importe, prononça-t-il, j'agirai selon les circonstances. Écrivez votre lettre, mademoiselle, voici de l'encre et du papier. » Pour toute réponse, la jeune fille s'assit à la table de Méchiné. mais au moment de prendre la plume, « Monsieur de Boiscoran, a-t-il des livres dans sa prison ? » demanda-t-elle. « Oui, mademoiselle. Sur sa demande, Monsieur Daveline est allé de sa personne lui chercher, chez Monsieur d'Aubigeon, quelques volumes de voyage et plusieurs romans de Cooper. » Une exclamation joyeuse de mademoiselle Denise l'interrompit. « Oh, Jacques ! » s'écria-t-elle, « merci d'avoir compté sur moi !» Et, sans remarquer le profond étonnement de Méchinet, elle écrivit « Nous sommes sûrs de votre innocence, Jacques, et cependant nous sommes au désespoir. Votre mère est ici avec un avocat de Paris, Maître Folga, tout dévoué à nos intérêts. Que devons-nous faire? Donnez-nous vos instructions. Vous pouvez répondre sans crainte puisque vous avez notre livre. » Denise. « Lisez, monsieur, » dit-elle au greffier dès qu'elle eut terminé. Mais lui, au lieu d'user de la permission, plia le billet qu'elle lui tendait et le glissa dans une enveloppe qu'il cacheta. « Oh, que vous êtes bon !» murmura la jeune fille, touchée de cette délicatesse. « Non, répondit-il, je cherche simplement à faire le plus honnêtement possible une action malhonnête. Demain, mademoiselle, j'espère avoir une réponse. Je viendrai la chercher. » Méchinet tressaillit. « Gardez-vous-en bien, mademoiselle, » interrompit-il. « Les gens de Sauveterre sont assez fins pour comprendre que la toilette ne doit guère vous préoccuper en ce moment et vos visites ici sembleraient suspectes. Remettez-vous-en à moi du soin de vous faire tenir la réponse de Monsieur de Boiscoran. » Pendant que mademoiselle Denise écrivait, le greffier avait fait un paquet des titres qu'elle avait apportés. Il le lui remit en disant « Prenez, mademoiselle, s'il me fallait de l'argent pour Blangin ou pour Frument ce cheminot, je vous le ferai savoir. Et maintenant, partez. Il est inutile de revoir mes sœurs. Je me charge de leur expliquer votre visite. »